Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie? Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, David Moll, grutier, nous reçoit sur le lieu de son travail un chantier de construction à Brest. David, pourriez-vous nous présenter déjà depuis la terre, là, depuis le sol, l'ensemble du chantier ?
Bah oui, bienvenue. C'est un immeuble de 6 étages, donc des habitations, essentiellement des habitations avec des aménagements éventuellement commerciaux dans les rez-de-chaussée et un sous-sol.
Est-ce que vous pourriez donner un peu les dimensions du chantier, la hauteur, la surface et puis les quelques éléments, enfin les outils, les engins qu'il y a sur le chantier ?
Surface au sol, on doit être à quelque chose autour de 600 mètres carrés, je crois. La hauteur, 6 étages, donc on est à une quinzaine de mètres environ, entre 15 et 20 mètres de haut pour le bâtiment. Là, on arrive, on verra depuis le haut de la grue, on arrive sur le toit. Là, on est en train de couler la dernière dalle tout en haut. Et voilà, c'est un travail, c'est 10-12 mois de boulot.
Donc là, on est au pied de la grue. Elle fait combien de mètres de haut ?
C'est 35 mètres sous crochet. Donc en fait, elle est un peu plus haute que 35 mètres, mais c'est la hauteur entre le crochet remonté au maximum et le sol, ça fait 35 mètres.
D'accord. Et bien voilà, je monte avec David, donc c'est une succession d'échelles avec des passerelles, il y en a 5. Et voilà, bon, on y va. Donc on est arrivé en haut, à peu près 35 mètres de haut. David est à la manœuvre sur son siège. Il avance le chariot. Alors David, je ne sais pas si vous pouvez commenter pendant que vous travaillez, mais si vous pouvez dire ce que vous faites.
Y a Yann là qui m'a appelé sur la radio pour que je lui prenne un bac avec des serre-joints dedans. Et donc je suis en train de placer la grue pour qu'il puisse accrocher le bac.
Donc la grue tourne, on survole le chantier. Il y a une énorme chaîne qui pourrait être dangereuse, qui arrive près d'un maçon en bas. Bon, tout est maîtrisé. Et pourquoi il a besoin de vous, là ?
C'est pour déplacer du matériel, en fait. Il a besoin de serre-joints, je ne sais même pas pourquoi faire, mais donc il a préparé des serre-joints dans un bac. Et moi, je vais accrocher le bac et on va descendre le bac là où il veut.
D'accord. Bon, la vue est magnifique. On voit la rade de Brest, les collines.
C'est où, Yann, le bac ?
Il y a la rade, s'il te plaît. Après, je vais essayer d'aller les argents qui sont dedans et après, tu peux renvoyer à ton pays là.
Ok, ça marche.
Alors, David communique avec le chantier par radio. Ça bouge quand même le poids que vous descendez là.
À la charge, oui, elle bouge un petit peu, ouais. Toujours. C'est la quête jamais terminée du grutier, c'est d'arriver à ce que les charges bougent pas, mais je suis pas sûr que ce soit possible.
D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un vent de, je sais pas, de 6, 7, 8 nœuds. Bon, c'est pas énorme. Alors par vent de plus de 80 km/h, on peut plus monter dans la grue.
On peut monter, hein. On peut plus travailler à partir de 72 km/h. 72 km/h, on a l'interdiction de travailler et on a le klaxon qui se déclenche.
Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de vent? Alors, qu'est-ce qui gêne pour le boulot?
Le premier stade, c'est quand le vent est assez fort pour faire bouger les charges. Donc ça complique la conduite. À partir de 50 km/h, il y a des charges qui ont des grosses prises au vent qu'on n'a plus le droit de déplacer. Et, pardon. Voilà, et du coup, quand ça passe au-dessus de 72, là, on n'a plus rien le droit de déplacer.
Et j'imagine que ça bouge dans la cabine aussi, par plus de 50 km/h.
Oui, alors ça bouge un petit peu dans la cabine, mais ça, c'est surtout la charge qui va bouger le plus, quoi. Et ça fait bouger la flèche aussi, là, qu'on a devant nous. C'est-à-dire, mais on la voit bouger beaucoup au bout de la flèche, mais au niveau de la cabine, ça, c'est une amplitude qui est très légère. Donc ça se sent, mais c'est pas le rodéo, quoi.
D'accord. Alors on était à l'ombre et par un mouvement de 160 degrés, David nous remet au soleil, face à la mer. On voit les deux îles là, de la rade, l'île
aux morts et Trébéron.
C'est ça, ouais.
L'île aux morts, Trébéron, on voit bien aussi l'île longue là.
Alors maintenant, puisque là, j'ai de la chance, on est sur une journée assez calme sur le chantier, puisque c'est un chantier qui est sur sa fin, il y a encore une semaine de boulot et... Et voilà, les grues, les bétonnières, tout ça iront ailleurs pour faire un autre immeuble. Donc on a le temps un peu de parler. Est-ce que, David, vous pourriez me décrire le parcours depuis la sortie de votre premier diplôme en IUT jusqu'à grutier? Il est un peu long, mais on va prendre le temps parce que c'est intéressant de voir les multiples parcours qu'il y a pour devenir grutier et pourquoi on choisit ce métier.
Alors après mon IUT, j'ai fait une troisième année en Écosse, une année d'études en Écosse, un Bachelor of Science dans le même domaine, donc électronique, informatique industrielle, un peu plus orienté réseau. Après ça, je suis rentré en France. Pendant un an, j'ai essayé de trouver du travail. J'ai fait quelques missions d'intérim, de manœuvres, de collage d'affiches ou je ne sais quoi. Et puis... au bout d'un an, ça a été le temps de partir au service militaire. Donc j'ai fait un service militaire de 10 mois. Et à la suite duquel, j'ai commencé à trouver un premier boulot dans une entreprise qui faisait des téléphones publics à l'époque. Ça existait encore. Et j'ai eu un premier CDD, puis renouvelé. Et puis en fait, comme ça ne débouchait pas comme j'aurais aimé sur un CDI, j'ai décidé de repartir à l'étranger. Ça me titillait depuis mon séjour en Écosse. Et j'ai décidé de repartir en Norvège parce que j'avais rencontré un Norvégien en Écosse avec qui je m'étais bien entendu. Et donc je me suis dit, quitte à repartir à l'étranger, autant voir quelque chose de différent. Et j'ai décidé d'aller sur la Norvège.
La langue n'était pas un obstacle?
La langue, c'était un intérêt de plus, quoi. C'était l'enjeu, c'était d'apprendre la langue aussi, quoi. Parce que c'est ce que j'avais découvert en Écosse, que la maîtrise de la langue permettait d'ouvrir beaucoup de portes. Donc j'avais très envie de faire ça en Norvège également.
Vous êtes resté 3 ans, je crois, vous avez même travaillé là-bas. Alors qu'est-ce que vous avez fait là-bas en 3 ans, hein? Et pourquoi vous êtes revenu aussi?
Alors j'ai commencé, au départ j'avais pu faire transférer mes droits au chômage, donc j'avais 3 mois avec des allocations, et donc dans un premier temps je me suis concentré sur la langue, j'ai fait des stages intensifs pour apprendre la langue, et puis au bout de 3 mois quand la question financière s'est reposée, je savais que j'aurais pas un métier dans mon domaine tout de suite. Je savais que je me plaisais bien là-bas et que j'avais envie de continuer. Et je savais que ce serait possible de faire des petits boulots. Donc j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai fait, euh, J'ai distribué des journaux, j'ai fait la plonge dans des cantines, j'ai travaillé comme aide jardinier dans un cimetière.
Vous avez été aide péricultrice?
Ouais, ça c'est venu plus tard,
D'accord.
c'est pas dans cette première phase-là, c'est venu plus sur la fin de mon séjour en Norvège, mais oui, j'ai fait ça, je travaillais dans des jardins d'enfants aussi.
D'accord. Faut autant de délicatesse pour piloter une grue qu'un enfant.
Bonne question. Si je devais trouver un point commun entre les deux, c'est la patience.
Ah, la
Je pense
patience.
qu'il faut de la patience pour s'occuper des enfants et il faut de la patience pour conduire une grue, ouais.
D'accord. Donc après, bon, à un moment vous décidez de rentrer, alors il y a une raison peut-être ou peut-être pas.
Et en fin de compte, au bout de 3 ans, j'avais fini de découvrir la Norvège. C'était devenu mon quotidien, donc il n'y avait plus le côté exotique de découvrir un nouveau milieu. Et puis je me suis retrouvé sans emploi fixe, parce que j'avais trouvé du boulot dans l'intermède quand même. J'avais trouvé un boulot dans les télécoms, chez un opérateur de réseau télécom. Et puis c'était la période où il y a eu la bulle du domaine télécom où tout s'est écroulé. Donc ils ont licencié les derniers arrivés. Donc je suis reparti à ce moment-là. Et donc après, j'avais donc pas de boulot spécial, plus le côté exotique, pas de copines qui me tiennent par là. Donc je me suis dit que ça, j'avais aussi l'accumulation du manque des amis et de la famille en France. Donc je me suis dit que c'était un bon moment pour rentrer en France, et puis en gardant dans un coin de ma tête que si je m'ennuyais en France, je pouvais toujours revenir, que ça serait pas compliqué.
D'accord, là, ouais, ça suppose quand même un sentiment de maîtrise un peu, je trouve. Oui, alors après vous arrivez en France, donc et là, vous avez deux étapes importantes, me semble-t-il. Un premier boulot qui correspond en partie à vos diplômes et à votre savoir-faire, hein, acquis à l'université, à l'IUT. Et il y a un changement là qui est intéressant, et puis et vous allez basculer. Enfin bon, racontez-moi la bascule, et puis après on va aller sur le métier de grutier.
Du coup, retour de Norvège, je trouve un boulot, ouais, où je fais de la outline pour une petite entreprise qui fait un logiciel pour les professionnels de santé. Et au bout de 3 ans, je commence à trouver ça. Bah, je savais dès le départ que c'est pas passionnant, mais ça commence à être lourd au bout d'un moment, quoi. Et je commence à me poser des questions et j'essaye de chercher un peu du boulot ailleurs, mais sans trouver l'enthousiasme nécessaire pour décrocher un poste. Et puis là, je m'oriente donc vers un bilan de compétences pour faire le point sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire.
Vous avez été un peu vite, il y a un passage moi qui me semblait intéressant, c'est le boulot là a été intéressant, c'était dans vos compétences, et à un moment vous mainteniez, vous étiez outline pour un logiciel qui n'était plus maintenu. Et donc vous étiez réduit à faire tout simplement ce que vous avez dit, du pipeau, c'est-à-dire rassurer les gens qui sont en ligne, mais tout en leur disant qu'il n'y aura pas de il n'y aura pas d'amélioration du logiciel, et c'est ça qui vous a fait
Non.
changer, non?
Oui, alors c'est ça, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'au contraire, on pouvait pas leur dire qu'il n'y aurait pas d'amélioration. Il fallait faire comme si on allait s'occuper de leurs problèmes, alors que en
Ah d'accord,
fait,
c'est pire.
l'équipe de développement travaillait sur une nouvelle version. Alors oui, certes, après ils ont eu accès à la nouvelle version, mais pendant toute cette période de développement, en fait, on devait répondre à des gens mécontents en faisant semblant qu'on s'occupait d'eux alors qu'on s'occupait pas vraiment d'eux en
D'accord.
direct.
Ok, alors donc bah, du coup, vous quittez cette boîte, toujours très libre et très vaillant. Bilan de compétences. Alors le bilan de compétences, il donnait, enfin, voilà, pour le résumer.
Alors oui, je quitte pas la boîte tout de suite puisque le bilan de compétences, il est fait dans le cadre de l'entreprise, enfin dans le cadre, c'est-à-dire que l'entreprise me laisse un peu de dispo pour pouvoir faire ce bilan de compétences. Et donc je tombe sur une conseillère avec qui c'est très intéressant, ça se passe bien et on a un travail. Moi je suppose que c'est tout le temps comme ça, mais j'ai aussi entendu des gens qui ont fait des bilans de compétences et qui n'en étaient pas contents du tout, mais on travaille sur les attentes par rapport au travail, on travaille sur les affinités, les envies et tout ça. Et on travaille aussi en aveugle sur un brainstorming. Moi, je parle d'une grue que je vois sur mon chemin pour aller au travail. Et ma conseillère me dit que, ben, qu'en fait, le métier de grutier, c'est un métier qui peut correspondre aux attentes que j'ai pu exprimer auparavant dans nos entretiens ou à travers les tests qu'elle m'a fait faire. Et je finis donc en fait ce bilan de compétences avec une piste qui m'envoie vers grutier et une piste qui m'envoie vers auxiliaire de puériculture.
D'accord.
Donc c'est le lien avec mon expérience en Norvège. Et donc ma conseillère m'enjoint à rencontrer des professionnels de chaque profession en me disant que quand j'aurai discuté assez avec ces personnes-là, le chemin pour moi devrait se révéler. Donc je fais ça, j'ai une première... Je rencontre une auxiliaire de puériculture et puis j'ai l'occasion de me rendre sur un chantier et de monter sur une grue. Donc c'était moi à ce moment-là qui était le nouveau pas très à l'aise sur l'échelle.
Oui, parce qu'on est passé vite sur la montée de l'échelle, mais bon, moi j'ai eu le vertige quand même. Faut imaginer, il y a 5 échelles successives, on monte à 35 mètres. Au début, on est entouré par un bâtiment, puis après on se retrouve en plein vide. Et ben, chaque barreau, voilà, faut les monter. Bon, David fait ça comme un petit marathon le matin. Ouais. Oui.
Donc une fois que j'ai pu vérifier que ça me posait pas de problème de monter jusque dans la cabine de la grue, je réfléchis que l'avantage de grutier, c'est que je peux me former plus vite, puisque auxiliaire de puériculture, c'est une formation de 6 à 10 mois et qui commence en septembre. Et moi, je suis pressé de quitter mon emploi. Donc, l'autre
grutier, élément... c'est 3 mois de formation ?
Alors moi, j'ai fait une formation de 3 mois qui inclut un stage de 6 semaines. Mais c'était un choix de ma part parce que n'étant pas du tout du monde du bâtiment, je voulais me préparer au mieux. Mais il existe des stages de 15 jours pour se former, pour obtenir un CACES de conducteur de grue, donc certificat d'aptitude à la conduite en sécurité.
D'accord.
Et c'est ça qui donne l'autorisation de conduire la grue, mais ça fait pas de nous un grutier, loin de là.
Oui, non, mais j'imagine. Tout à l'heure, on a discuté avec le chef d'équipe. Oui, un grutier, il a énormément de responsabilités. Enfin, bon, avant d'aller plus loin, là, peut-être vous pourriez décrire sur une fiche de poste quelles sont les fonctions, les tâches du grutier, et puis après, peut-être les qualités du grutier. D'abord, les tâches et fonctions. Ouais.
Bah, le métier de grutier dans le bâtiment, ça peut se résumer assez simplement, c'est déplacer des charges sur le chantier en assurant la sécurité du matériel et du personnel. Donc c'est vraiment simple et ça décrit vraiment bien le métier. Après, il y a tout un tas de détails qui viennent s'ajouter, le facteur météo... le facteur du matériel, les grues sont différentes, il y en a qui sont en bon état, il y en a qui sont en moins bon état. Faut s'adapter à tout ça, quoi.
Si je décris la grue, là, bon, on est à 35 mètres, mais devant, il y a une flèche qui fait combien de mètres ?
On a une flèche de 35 mètres aussi.
35 mètres sur lequel se balade un câble, une chaîne, en dessous, il y a une chaîne donc, qui va chercher les charges. Et il faut bien voir dans l'espace, je pense, dans les trois dimensions, là.
Bah, la vue, oui, la vue est importante et c'est une éducation du cerveau en fait qu'on fait petit à petit pour arriver à placer. La difficulté, hein, c'est de placer notre crochet, enfin les chaînes qui sont sous notre crochet à l'endroit où on a une charge à attraper. Et la difficulté au-delà de se mettre au bon endroit, c'est de se mettre au bon endroit en ayant des chaînes qui bougent pas trop, puisque quand on va déplacer la grue, il va y avoir un mouvement comme une balançoire en fait. Les chaînes et le crochet vont, oui, vont se balancer et il faut maîtriser ce mouvement-là pour pas que ça casse des choses dès qu'on arrive près du sol.
Il y a un deuxième aspect, c'est le rapport avec toutes les personnes du chantier. Il peut y avoir 15, 20, enfin, ça dépend des chantiers. Donc comment vous coordonnez, comment vous prenez ou non des initiatives, comment se passe le travail habituellement, ouais.
Alors ça dépend beaucoup d'un chantier à l'autre. Là, sur le chantier où je travaille actuellement, les chefs d'équipe ont chacun un toki et donc ils font appel à moi quand ils ont besoin, sachant qu'il y a un planning préétabli avec le chef le matin qui dit que à 8 heures, quand on commence, on va s'occuper d'abord des bancheurs. Les bancheurs, c'est les coffreurs, les ouvriers qui font les voiles, les murs.
D'accord.
Donc on déplace en fait le moule, le béton c'est liquide quand c'est frais, et donc on fait un moule dans lequel on va couler le béton. Donc on va commencer la journée pour déplacer les moules et tout le matériel qui est nécessaire pour la confection du coffrage. Et après, dans un deuxième temps, on va passer avec l'équipe de plancher ou d'étayage. Et donc, c'est les différentes tâches à accomplir sont prévues en amont par le chef de chantier. Et après, les chefs d'équipe prennent en charge, enfin, prennent en charge, c'est pas prennent en charge, mais utilisent la grue par mon intermédiaire pour déplacer ce qu'ils veulent dans l'ordre qu'ils veulent. Ils sont relativement autonomes. Et après, ils discutent entre eux. Si on a un qui est bloqué parce qu'il lui manque un bac de matériel, il va demander, l'autre va lui dire ok, bah, je finis ça, après t'as la grue, et voilà. Donc c'est
D'accord.
une communication entre les chefs d'équipe et le chef de chantier essentiellement qui détermine l'agenda de la journée, quoi.
Tout à l'heure, votre chef de service vous a dit ouais, David, peut-être tu ne le sais pas, mais tu as le tempérament pour ça. Alors, répondez peut-être, je sais
Ouais, je t'écoute.
Alors, nouvelle manœuvre. On va se remettre à l'ombre. Alors là, il y a une manœuvre. La chaîne descend derrière un mur, on ne voit pas. Mais il y a une caméra. C'est ça, hein?
Ouais.
Voilà,
Il y a une caméra sur mon moufle, donc au-dessus de mon crochet, qui me permet de voir ce qu'il y a en dessous de mon crochet.
La manœuvre se fait à partir de ce qu'on voit dans une caméra. C'est encore un autre rapport à l'espace, là.
C'est la première fois que je travaille avec une caméra et c'est les premiers temps sont assez déroutants, ouais. Mais finalement, après, une fois qu'on a les repères, c'est très efficace et ça se fait très bien.
Mais là, moi, je regarde la caméra aussi. Je vois pas l'ouvrier à côté de la chaîne. Je sais pas où est le danger.
C'est un coup d'œil, hein. Moi, je sais d'où il va arriver, je sais à peu près où il va se placer. Et du
Ah oui,
coup,
puis la caméra, vous pouvez la modifier, vous
on
pouvez
peut,
changer le zoom.
oui, on peut changer le zoom, ouais. J'ai une petite pédale sous le pied où je peux dézoomer au maximum ou
Ok.
zoomer au maximum
D'accord.
suivant la hauteur de là où je trouve ma charge. Là, je pense qu'il est accroché. C'est bizarre qu'ils me disent rien. D'être attentif à comment ils élinguent la charge, comment ils accrochent la charge, puisque une fois qu'on lève la charge, c'est nous qui sommes responsables. Donc si l'élingage est mal fait, c'est très important qu'on soit attentif à ça. On met sur le quai de déchargement, Julien?
Là, on soulève des plaques de béton accrochées.
Non, c'est du bois, ça.
Ah, c'est du bois. Moi, je voyais du béton. Ouais.
Non, c'est des poutrelles de bois.
D'accord.
C'est un paquet de poutrelles de bois et ça sert à faire les étaiements de plancher, pour les coffrages de plancher.
Ah, c'est ça, c'est un coffre.
Ouais, alors l'avantage de la caméra, c'est qu'on voit bien au-dessus de quoi on est. Par contre, on voit pas bien la hauteur. Alors que quand on regarde dehors, on voit mieux la hauteur de la charge.
D'accord.
Après, j'ai mon aide à la conduite aussi qui me donne une indication ici, qui me donne une indication de hauteur.
C'est ça. Sur la gauche, il y a deux écrans qui indiquent des profondeurs, des hauteurs, des angles peut-être.
Ouais, il y a l'angle pour l'orientation, il y a la distance pour la distance du chariot par rapport au mât de la grue, et il y a la hauteur du crochet. Et le poids également, le poids de la charge. Donc là, on a une charge qui fait 1,7 tonnes.
La personne qui élingue, si elle le fait mal, alors comment vous faites ça pour savoir, hein, parce que c'est après, la responsabilité est à vous. On ne voyait pas le truc se faire, en fait.
Alors, il y a beaucoup de choses qu'on voit, même si on est loin et si on est haut et avec l'habitude, on comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir précisément pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, il y a moyen de savoir juste en regardant beaucoup de choses. Et après, c'est au moment où on commence à lever, du coup, on lève tout doucement et on voit comment la charge réagit. Et si... Ce qui arrive, par exemple, assez communément, c'est d'avoir une sangle. On prend une charge avec deux sangles, et il y en a une qui est plus longue et l'autre plus courte. Et du coup, la charge, elle est déséquilibrée. Et ça, on va le voir quand on commence à lever, on va le voir. Et à ce moment,
ouais, dans la manœuvre.
Non, c'est plus visuel.
Ah, d'accord.
Et à ce moment-là, on dit, non, ça ne va pas. Cette charge-là, elle ne va pas tenir en place quand je vais vraiment lever. Donc, on peut reposer avant que ce soit dangereux, quoi. Et là, on demande à refaire un élingage correct.
Bon, à ce stade, on voit vraiment bien le métier, hein, de grutier. C'est de la hauteur, c'est des manœuvres, c'est beaucoup de danger. Enfin, beaucoup de prudence, je voudrais dire, plus que de danger. oui.
Le danger, il est beaucoup pour les gars sur le sol. Parce qu'effectivement, là, je viens de poser un paquet de poutrelles en bois qui fait 1,7 tonnes. Et si je le pose sur la tête ou sur le pied, ou si à un moment où je vais le poser, il y a un mouvement de balançoire qui va coincer le doigt de l'ouvrier qui est en train de l'attraper contre un mur qui est accroté, c'est évident que ça peut faire des gros, gros, gros dégâts. Et ça arrive. Donc le danger, il est vraiment là. Et c'est surtout pour les ouvriers, parce que dans la cabine, on ne va pas se faire mal dans la cabine de la grue.
Oui, si vous abîmez quelqu'un, vous êtes en danger aussi. ça nous amène à la question du savoir-être, sur toutes les fiches de poste d'IA, savoir-être. Et tout à l'heure, j'ai entendu le contremaître vous dire, enfin le contremaître, le chef de chantier, dire que vous vous rendiez peut-être pas compte, mais vous aviez un caractère qui allait bien avec ce métier. Alors, c'est quoi le savoir-être du grutier ?
Pour moi, c'est la patience et le calme. C'est-à-dire que de pas se laisser prendre par l'émotion, d'y aller sereinement et tranquillement. Alors, on a besoin d'aller vite. Mais ça, la vitesse, ça vient avec l'expérience de la conduite. Mais le plus important, oui, c'est de pas se laisser... emporté par la nécessité de vitesse et de savoir prendre le temps de faire les choses correctement, assez précisément, assez de manière assez maîtrisée, quoi.
On voit bien le métier, on voit bien les gestes, on voit bien le matériel, on voit bien les dangers. Si on parlait du plaisir de travailler, et vous avez plaisir à travailler, même s'il y a aussi plaisir à s'arrêter. Quel est le plaisir et le métier, c'est-à-dire les compétences vraiment fortes qui font de quelqu'un qui maîtrise quelque chose et qui donc il en tire profit de ce métier. Quand je parle de métier, j'entends par exemple le métier d'ébéniste qui fait un beau meuble. Après, le beau meuble est là et c'est indiscutable.
Je dirais qu'il y a deux aspects. Vous me parlez de beaux meubles et moi, mon meuble, ça va être la belle manœuvre. C'est-à-dire que c'est une manœuvre qui va être rapide et efficace et propre. C'est où je ne fais pas beaucoup de coups de manette, où je vais assez vite, où je ralentis correctement et où ma charge, elle ne bouge pas ailleurs que là où j'ai envie qu'elle aille. Donc c'est comme un... Ça peut paraître un peu abscon comme ça, mais en fait, c'est un peu comme quand on fait un créneau pour se garer avec une voiture. On peut s'y reprendre à 10 000 fois et on peut le faire du premier coup sans y aller tout doucement à deux à l'heure. Et voilà, c'est une belle manœuvre de grue. C'est comme un beau créneau bien réussi.
Créneau dans trois dimensions quand même, hein, avec des obstacles partout. Ouais.
Et donc ça, c'est une source de satisfaction. C'est du pilotage, en fait. Et l'autre source de satisfaction pour moi, c'est le cadre, parce qu'on a l'avantage d'être dehors. Donc on profite de la météo, mais sans y être trop exposé, puisqu'on est dans une cabine qui normalement est étanche. Bon, ça arrive d'avoir des cabines qui prennent l'eau, mais avec un chauffage, pareil, parfois il y a des chauffages qui sont en panne.
Je l'ai sous moi, le chauffage, je crois.
Il est sous mes pieds.
C'est très agréable et on a une vue, encore une fois, extraordinaire, parce qu'il y a un anticyclone gigantesque là sur l'Europe, j'imagine, parce que pour qu'il soit à Brest, il faut qu'il soit sur l'Europe. Donc c'est magnifique, quoi. Maintenant, alors, puisque le boulot, c'est à la fois quand même extraordinaire, moi je le répète, et c'est aussi parfois des choses moins faciles. Est-ce que parmi on voit les difficultés que vous avez, hein, poser les choses au bon endroit, ne blesser personne, tout voir de là-haut. Mais on voit le plaisir de la manœuvre. Alors, si on cherche des choses qui rendraient le métier un peu moins attirant ou un peu l'intérêt pour ce métier un peu plus petit, on dirait. Est-ce que vous pourriez citer un exemple où c'était pas forcément agréable de vivre ce moment-là et qui est pourtant un moment qui traverse tous les grottiers, ouais.
Bon, pour moi, le gros moins, c'est quand il faut travailler avec des gens pénibles.
Oui, c'est beaucoup.
Enfin, je suppose que ça arrive à tous les grutiers de devoir travailler avec un ouvrier qui veut faire les choses comme ci, comme ça, et les choses comme ci, comme ça, qui ne correspondent pas aux règles de sécurité qu'on doit respecter. Et qui tient absolument à nous faire des choses pas propres. Et dans ces cas-là, il y a une espèce de lutte qui s'engage de « c'est moi qui ai raison, c'est pas toi ». Et ça, pour moi, c'est des moments qui sont très désagréables, hein, et qui sont source de tension.
Oui, le jour où vous parliez même d'un ancien donc, qui avait voulu vous faire quelque chose, ou une manœuvre que vous ne voulez pas faire, et quelqu'un insiste pour le faire. Ouais. Donc c'est le rapport aux autres, oui. Il y a un deuxième aspect, je crois, qui vous séduit dans ce métier, c'est que vous le faites, vous, en intérim. Alors, en intérim, spontanément, moi, je vois de la précarité. Et vous, vous n'en voyez pas du tout. Donc, peut-être deux questions. Vous faites ce métier depuis une quinzaine d'années, c'est ça, hein, 12 ans à Brest.
Ouais, j'ai dû faire ma formation en 2008. Et donc 2023, oui, ça, on arrive à 15. Ouais.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes en intérim et votre métier, votre situation n'est pas précaire?
Alors, ma situation n'est pas précaire en intérim grâce à l'assurance chômage, puisque quand je termine une mission, je peux compter sur l'assurance chômage pour assurer mes frais fixes, mon loyer, ma bouffe et tout ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Alors...
Non, mais il y a un deuxième aspect, qui est l'aspect... Vous en avez parlé, quand même, c'est votre compétence. C'est rare que la compétence donne... Non ?
Alors oui, bien sûr. Alors, mais ça, c'est tout un parcours. C'est-à-dire que quand j'ai été formé grutier, c'était compliqué de trouver des missions. Comme je disais tout à l'heure, la formation, c'est une formation, c'est un certificat d'aptitude pour pouvoir avoir le droit de conduire en accord avec la réglementation, mais ça présume absolument pas notre compétence de grutier, au sens où on maîtrise la grue, au sens où on comprend le chantier, au sens où on comprend pourquoi les choses elles vont à un endroit à un autre et qu'est-ce que le cadre implique comme danger et tout ça. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui s'apprennent au fur et à mesure et qu'on n'a forcément pas quand on commence. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver du boulot quand on est jeune grutier ou quand on n'est pas bon grutier, mais je suppose qu'on passe difficilement si on n'arrive pas au début à franchir les étapes. Je pense pas qu'on puisse faire une carrière de 15 ans de grutier sans être relativement bon.
C'est votre expérience et votre CV finalement qui vous garantit de retrouver un chantier quand celui-ci sera fini, c'est ça, hein?
Bah c'est pas une garantie non plus, parce qu'on est tributaire du marché. C'est-à-dire que moi, à Brest, c'est pas une très grande ville, donc des chantiers dans le bâtiment, il n'y en a jamais 30 ou 40. Et quand il y en a 5, en général, ça peut durer 5, 6, 8, 10 mois. Et si je ne suis pas dans les 5 qui sont recrutés à ce moment-là pour les grues, ben, le prochain chantier qui s'ouvre, il peut être dans 3, 4 mois, 5 mois, donc ça peut prendre du temps. Ça c'est le cadre économique, c'est-à-dire que c'est des situations que moi j'ai pu vivre à Brest, mais qu'on vit sans doute pas à Paris, à Lyon ou à Rennes ou à Nantes, des villes où il y a beaucoup plus de bâtiments en construction en permanence.
Parce qu'en plus, il faut le dire, vous avez choisi de ne vivre qu'à Brest, vous suivez pas les chantiers là où ils sont, quoi.
Alors ça, c'est un des avantages de l'intérim, c'est qu'effectivement, je connais pas de boîte de bâtiments, en tout cas sur Brest certainement pas, qui travaillent toujours à Brest, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un chantier à Brest, et puis le chantier d'après, il va être à Saint-Renan, ou il va être à Morlaix, ou à Plougastel. Et donc ça implique les embauchés dans ce milieu-là, ils ont tout le temps beaucoup de déplacements, et moi je cherche pas le déplacement, je suis bien content d'être à Brest et de pouvoir me déplacer à vélo, donc c'est un avantage que me donne l'intérim de pouvoir, du coup, quand un chantier se finit à Brest, si la boîte elle part ailleurs, moi je peux rester à Brest et aller travailler pour une autre boîte qui est sur un chantier à Brest.
Bon, là, vous avez 47 ans, je me permets de dire. 47 ans, c'est peut-être un âge où on commence à se dire, bon, où on accorde plus importance à la solidité de son travail qu'on le fait à 20 ans ou à 25 ans ou à 30 ans même. Et vous maintenez votre choix, hein, c'est vraiment un choix, intérim, c'est pas une contrainte, c'est un choix, parce que cela vous permet aussi, c'est ce que vous me disiez, hein, de faire autre chose à côté, c'est ça, quand vous en avez besoin.
Ouais, c'est une grande liberté de pouvoir se donner du temps, effectivement, quand on le souhaite. Alors moi, je suis passionné de bateaux à voile et j'ai eu l'occasion de partir sur des grands 3 mois. C'est pas des voyages qui se font le week-end, c'est des voyages sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc pour moi, c'est un confort de pouvoir dire à mon agence d'intérim, de telle date à telle date, je ne serai pas disponible, je pars en voyage.
D'accord, et ça, c'est le métier de grutier le permet. Pour conclure, peut-être, un jeune homme qui voudrait se lancer dans ce métier, quel conseil ou quelle recommandation vous pourriez lui faire?
D'abord, le premier truc, c'est de vérifier s'il est capable de monter en haut d'une grue, parce que sans ça, rien n'est possible. Et après, en dehors de ça, tout est possible.
Donc on interrompt là pour la manœuvre. Là, il y a du ballon. Hein.
Ouais.
On voit la chaîne qui part à droite, à gauche, à droite, à gauche, avec quelqu'un en dessous. Hein. Donc David, là, je sais pas si c'est vous d'ailleurs, la calme.
Hein. Ouais, c'est...
Elle va cogner contre eux.
En partie moi et en partie elle toute seule. Et
là, oh là là.
Du coup, j'arrête.
Elle... Ouais. Elle est...
descend tout doucement et il va l'attraper, mais le but c'est qu'il l'attrape avec ses mains. Voilà.
Ça y est, l'ouvrier a attrapé la chaîne qui peut faire très très mal.
Ça m'est arrivé d'assommer un gars avec une chaîne.
D'accord. Là, ça, on doit être mal avec ça. C'était en partie sa faute.
En partie, on peut toujours lui reprocher un manque de vigilance, mais c'était quand même moi qui avais foiré ma manœuvre plutôt.
Ouais, on peut casser des gens, on peut casser aussi le bâtiment.
Et le matériel.
Ouais. Et le matériel. Ah oui, là, c'est au centimètre. Hein. C'est à nouveau une manœuvre avec la caméra. On sent quand la charge est posée.
Oui. En fait, suivant la vitesse avec à laquelle je lève ou je relâche, on sent effectivement la grue qui se penche et qui se redresse. Ça se penche au moment où je prends la charge. Et au moment où on la pose la charge, du coup, la grue, elle se redresse.
C'est élastique, quoi.
Ça fait comme une canne à pêche, mais bon, c'est une très très grosse canne à pêche et ça se sent, on bouge là où on voit une canne à pêche pliée.
D'accord.
Nous, on sent, c'est un petit déplacement pour nous de quelques centimètres, mais au bout, quand on regarde le bout de la flèche, ça se voit bien.
Et si vous vantez le métier, si vous le vantez, vous en faites de la pub, Pourquoi on se lasse pas d'un métier comme ça où on, se, où on peut s'en lasser, ouais.
Moi je pense qu'on peut s'en lasser. Enfin, j'ai eu plusieurs fois la conviction que si j'avais pas des périodes entre mes missions d'intérim où je fais autre chose, où je prends le temps, et si j'étais avec juste 5 semaines de congé par an, je pense qu'il y a un moment, il y aurait quand même une lassitude qui s'installe, et puis et une frustration. Et donc c'est un métier avec lequel j'ai trouvé un bon équilibre en travaillant en intérim. C'est un métier où faut pas avoir peur d'être tout seul, parce que là j'ai quelqu'un à côté de moi, mais c'est exceptionnel. Normalement je suis tout seul et on parle un petit peu à la radio, mais à la radio c'est surtout pour dire viens ici, fais ça, et on n'a pas de collègues avec qui papoter. Donc ça c'est un truc qui est un peu particulier dans ce métier là quoi. Il y a des tas de gens qui moi je le vois sur les chantiers, les ouvriers me le disent, des tas de gens ils voudraient pas être là tout seul toute la journée pendant 7 à 8 heures voire plus des fois.
Et quand vous montez pour 4 heures aussi, c'est ça, hein?
En général c'est ça, ouais, ça fonctionne par demi-journée, donc on monte le matin 8h midi, après-midi 13h 17h, après ça arrive qu'on fasse un peu de rab parce que il faut finir un coulage ou parce qu'il y a une grosse journée avec beaucoup de choses à faire, donc on peut rallonger un petit peu, mais en général c'est ça, c'est deux demi-journées de 4 heures avec une pause déjeuner, on peut descendre. Moi ça m'arrive quand on a un temps comme ça, qu'il fait chaud, que c'est l'été, ça m'arrive de monter mon sandwich et de rester toute la journée. Bon, j'ai la limite maintenant, c'était moins le cas avant, mais maintenant j'ai besoin de redescendre pour faire pipi.
Ah oui. Il faut admettre que la cabine est très confortable, il y a une super vue, on voit au-dessus, non on voit pas au-dessus, mais on voit en face, en dessous, à côté. On peut voir le... Putain, ça me donne le vertige encore. Hein. On peut voir au-dessus. Voilà un bel endroit duquel je vais devoir redescendre tout seul. Eh bien, ouais, un autre mot à ajouter sur ce métier, non? En fait, c'est un modèle. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est là-dedans, c'est votre façon, ouais, de à la fois de trouver un travail très sérieux avec beaucoup de compétences qui vous donne la sûreté finalement quand même d'avoir du travail dès lors qu'il y en a, bien sûr.
Et bon. De la reconnaissance aussi.
Ouais. De la reconnaissance, ouais, parce que je vois bien, hein, j'ai bien vu la relation avec votre chef de chantier qui vous fait confiance, quoi, et qui a besoin de vous. C'est ça, on a vraiment besoin de vous, c'est très concret, ouais. On va laisser David continuer sa journée et puis moi je vais redescendre, mais je vais attendre que la tour s'arrête. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.